Laudetur Jesus Christus.
Elle laisse derrière elle un poste vacant, dotée d'un immense pouvoir. La doyenne de la Cour suprême américaine, Ruth Bader Ginsburg, est décédée. Et nous l'entendrons, la bataille pour son remplacement s'annonce déjà intense. Va-t-on vers une reprise de la production de pétrole dans l'Est libyen? Le maréchal Haftar, qui contrôle cette zone, a annoncé hier une levée du blocus sur les champs pétroliers, mais sous certaines conditions. Puis direction le Mali, plus d'un mois après le coup d'État, où en sont les négociations? Les explications à suivre de notre correspondant à Bamako. Et dans notre dossier, en fin de journal, le climatologue et glaciologue Jean Jouzel. Il reviendra avec nous sur la fonte de la calotte glaciaire au Groenland et ses conséquences.
Le journal Marine Henriot.
Bonjour à tous. Son visage était emblématique de la Cour suprême américaine. La doyenne de l'institution, Ruth Bader Ginsburg, est décédée hier à l'âge de 87 ans. Une juge progressiste, championne de la cause des femmes, des minorités ou de la protection de l'environnement. Ruth Bader Ginsburg laisse derrière elle un poste vacant, doté d'un immense pouvoir. Et la juge a fait part d'une dernière volonté il y a quelques jours, que son poste soit remplacé seulement après l'élection et l'investiture du prochain président américain. Mais la bataille juridique et politique pour son remplacement semble déjà commencer, Cyprien Viette.
Oui, le président Donald Trump a salué la vie exceptionnelle de cette juge classée à gauche qu'il a qualifiée de colosse du droit. Les drapeaux du Congrès de la Maison-Blanche ont été mis en berne, mais une fois passé un délai de décence de quelques jours, la fin de mandat du président républicain sera probablement marquée par la quête d'un successeur. Ce processus complexe ne devrait pas aboutir avant la présidentielle du 3 novembre, mais même en cas de défaite, le président Trump, qui restera quoi qu'il arrive au pouvoir jusqu'au 20 janvier, pourrait profiter de ce long délai entre l'élection et la passation pour faire pencher la Cour suprême dans le camp conservateur. Rien n'empêche le président d'user de cette prérogative durant les derniers jours de son mandat. Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, pousse en ce sens. C'est pourtant ce même Mitch McConnell qui avait fait obstruction en 2016 à la nomination d'un juge proposé par Barack Obama en affirmant qu'une telle nomination ne serait pas admissible en pleine année électorale. Le candidat démocrate Joe Biden appelle logiquement à ne pas se précipiter pour remplacer la juge décédée. Les électeurs doivent choisir le président et le président doit proposer un juge au Sénat, il dit dans une déclaration à la presse. Le sénateur républicain Ted Cruz, qui figure sur la liste des candidats potentiels, n'a pas attendu la fin de la période de deuil pour réclamer la nomination d'un nouveau juge dès la semaine prochaine. Cette nomination, c'est pour ça que Donald Trump a été élu, a écrit sur Twitter cet ancien adversaire du président, devenu l'un de ses partisans les plus zélés.
Merci Cyprien Viette. Et on reste aux États-Unis. L'élection présidentielle se tient dans 50 jours, mais certains États peuvent déjà voter de manière anticipée. C'est le cas par exemple de la Virginie. Et hier, la foule était au rendez-vous, des files de parfois plusieurs heures devant les bureaux de vote. Alors que le vote par correspondance a fait l'objet de nombreux débats durant la campagne, de nombreux électeurs ont finalement préféré se déplacer physiquement. C'est une décision qui devrait peser dans l'avenir de la Libye. L'homme fort de l'Est du pays, le maréchal Haftar, accepte de lever, sous certaines conditions, le blocus que ses forces imposent sur les sites pétroliers. Toutefois, l'exploitation future de l'or noir demeure encore floue, car la société publique qui gère le secteur pétrolier et le gouvernement de Tripoli n'ont pas accueilli la nouvelle avec enthousiasme. Les explications de Mohamed Haddad.
Khalifa Haftar, le chef des forces armées de l'Est, a annoncé la reprise de la production de pétrole après un blocus de 8 mois. Du côté de Tripoli, un haut responsable politique a affirmé à l'agence de presse Reuters qu'un comité serait formé pour assurer une distribution équitable des revenus. Cependant, la Société nationale du pétrole, qui gère le secteur énergétique libyen, a appelé à ce que les installations pétrolières soient démilitarisées, faute de quoi les exportations ne pourront pas reprendre. Le blocus des forces de l'Est a coûté à la Libye 9 milliards de dollars en perte de revenus jusqu'à présent en cette année 2020, selon la Banque centrale de Libye. L'arrêt est devenu un obstacle majeur aux nouveaux efforts de paix après l'échec de l'offensive de Khalifa Haftar sur Tripoli l'été dernier. La Libye est littéralement divisée en deux, entre d'un côté l'Ouest, contrôlé par le gouvernement d'accord national, le GNA, qui est reconnu au niveau international, et l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar dans l'Est du pays. Ces dernières semaines, plusieurs signes de désescalade se sont succédés. Le dernier en date, l'annonce de la démission de Faïz Sarraj, le chef du GNA, à la fin du mois d'octobre prochain, après 5 ans au pouvoir. Selon plusieurs analystes, cela va ouvrir la voie à une bataille politique pour sa succession. À Tunis, Mohamed Haddad pour Radio Vatican.
Les obsèques nationales, hier à Bamako, de l'ancien dirigeant Moussa Traoré. Il était à la tête du pays pendant 22 ans. Des responsables de la junte étaient présents. La cérémonie, en revanche, a été boudée par des responsables étrangers. Moussa Traoré était arrivé au pouvoir en 1968, après un coup d'État. Et justement, un mois après le dernier coup d'État au Mali, le futur du pays demeure incertain. Après deux week-ends de concertation avec les partis politiques, les religieux, la société civile et le mouvement du 5 juin, à l'origine des manifestations contre l'ancien régime, les militaires de la junte doivent encore prendre une décision quant à la durée et à la forme du gouvernement de transition. Tout cela sous le regard contraignant des présidents de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui a imposé un embargo sur le Mali. À Bamako, Paul Lorgerie.
Il n'est pas mince affaire de s'occuper de la reconstruction d'un pays. Cela prend du temps. Et le colonel-major Ismaël Ouagué, porte-parole du CNSP, n'a eu de cesse de le marteler lors d'une rencontre mercredi dernier.
La gestion de l'État n'est pas forcément facile. Il y a des compromis à faire. Il y a des sacrifices à faire. Le cas malien est compliqué. La crise est extrêmement profonde. Ce que les gens voient, c'est la partie émergée de l'iceberg.
Car en plus des problèmes internes, c'est avec les exigences des pays voisins que les militaires doivent composer. En début de semaine dernière, 4 des 5 têtes pensantes de la junte se sont rendues à Accra pour présenter l'architecture de la transition discutée entre Maliens. Résultat, alors qu'une majorité de Maliens souhaite voir un président militaire à la tête de la transition, les membres de la CEDEAO refusent en bloc, allant jusqu'à menacer d'alourdir les sanctions contre le pays. Une injonction, je cite, « bien intégrée », répond le colonel-major Ismaël Ouagué, qui a alors informé que le collège en charge de la désignation du président de l'entre-deux démocratique avait commencé. Sa composition devrait d'ailleurs être connue dans les jours à venir, peut-être même avant le 22 septembre, date limite imposée par la CEDEAO, mais aussi date anniversaire des 60 ans de l'indépendance du pays. À Bamako, Paul Lorgerie pour Radio Vatican.
Ils sont des dizaines de milliers de jeunes attendus ce week-end dans les rues de Bangkok en Thaïlande, et cela pourrait être la plus grande manifestation depuis le coup d'État de 2014. Les jeunes thaïlandais demandent plus de démocratie, la démission du Premier ministre, et certains réclament même une réforme de la monarchie, un sujet tabou dans le pays. 15 jours après le lancement de la campagne électorale en Bolivie, l'actuelle présidente intérimaire, Jeanine Añez, a annoncé le retrait de sa candidature. Une annonce qui a eu lieu au lendemain de la publication d'un sondage qui l'a placé en quatrième position. En tête des sondages, le candidat de gauche de l'ex-président Evo Morales. Jeanine Añez a donc décidé de faire marche arrière et mise à présent sur l'union de la droite pour éviter le retour du parti de Morales au pouvoir. La correspondance de Caroline Vic.
Ce n'est pas un sacrifice, mais au contraire un honneur. Voilà ce que Jeanine Añez a déclaré après l'annonce du retrait de sa candidature. La présidente intérimaire a affirmé avoir pris cette décision pour protéger la démocratie. Et c'est un sondage qui l'a fait changer d'avis. En tête, avec un peu plus de 40% d'intention de vote, Luis Arce, du parti MAS, Mouvement au Socialisme, le candidat de l'ancien chef d'État, Evo Morales. En deuxième position, le candidat de droite, Carlos Mesa, avec 26%. Puis Luis Camacho, l'un des leaders des protestations contre Morales l'année dernière, avec 14%, et en quatrième position, donc, Jeanine Añez avec 10%. Avec son retrait de la course présidentielle, Añez mise donc sur une alliance de droite afin d'éviter la victoire du MAS. Mais ce n'est pas si simple, car Mesa et Camacho ne semblent pas vouloir s'unir. Il faudrait donc un second tour pour que la droite ait une chance d'aspirer à la présidence. Ce retrait surprise de la présidente a donc mis un peu plus encore de piment et de tension dans cette campagne, à un mois seulement de l'élection présidentielle. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
Nouvelle passe d'armes entre Washington et Caracas. Selon le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, le président vénézuélien a anéanti son propre peuple et il doit partir, a déclaré Mike Pompeo. La réponse de Nicolas Maduro ne s'est pas fait attendre. Le chef de la diplomatie américaine est un va-t-en-guerre, estime le président vénézuélien. La Chine veut restreindre les activités des entreprises étrangères sur son territoire et pour cela, Pékin entend mettre en place une liste d'entreprises dont les activités portent atteinte à la souveraineté nationale du pays et à ses intérêts. Aucune entreprise n'est spécifiquement nommée, mais les États-Unis perçoivent cette décision comme des représailles, alors que Washington a annoncé il y a quelques jours l'interdiction de téléchargement sur le sol américain de plusieurs applications chinoises, dont le célèbre TikTok. En Espagne, la région de Madrid est débordée par les cas d'infection au coronavirus. De nouvelles mesures ont été prises. Dans certaines zones de la région madrilène, il faudra se limiter aux sorties seulement dans son quartier, et cela à partir de lundi. C'est une conséquence directe du réchauffement climatique. La fonte des glaciers s'accélère, et cela depuis plusieurs décennies. Au Groenland, sous l'effet de la chaleur, une masse de glace de 113 km² s'est détachée du plus grand glacier existant encore dans l'Arctique, le glacier 79N. Au total, ce sont presque 30 000 milliards de tonnes de glace qui ont disparu de la surface de la Terre entre 1994 et 2017. Une fonte des glaces lourde de conséquences pour les habitants et les animaux de l'Arctique. Elle provoque également la montée du niveau des océans et des inondations. L'analyse ce matin de Jean Zouzel, climatologue et glaciologue, prix Nobel de la paix en 2007.
La masse du Groenland diminue chaque année. Et donc là, c'en est une expression. Dans ce cas, cette fonte des glaces a évidemment une importance pour les habitants. On voit bien, il y a d'ailleurs qu'il y a de certains endroits où les habitations peuvent être mises à mal. Il y a aussi évidemment des modifications dans les pratiques de pêche, mais vraiment la conséquence peut-être la plus importante, la plus visible et disons celle dont nous devons nous soucier à long terme, c'est la contribution en termes d'élévation du niveau de la mer. Actuellement, le Groenland contribue chaque année à peu près pour un tiers à l'élévation du niveau de la mer. Cette élévation du niveau de la mer est de 3 mm chaque année. Si le réchauffement climatique n'était pas maîtrisé, eh bien à long terme, à l'échelle de quelques siècles, même du millénaire, le Groenland serait condamné. Le Groenland, la fonte complète du Groenland, c'est 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Ce qu'on voit aujourd'hui n'est que les prémices. Bien sûr, c'est très loin dans le temps, mais c'est maintenant que nous en décidons.
Cette fonte de la calotte glaciaire du Groenland a provoqué, vous l'avez évoqué, une hausse du niveau des océans, plus d'un centimètre entre 92 et 2018. Oui. Avec quelles conséquences ?
Les submersions deviendraient beaucoup plus importantes. Par exemple, en France, avec l'élévation du niveau de la mer, eh bien, on pourrait avoir chaque année 1 million d'habitants qui pourraient être victimes de submersions temporaires. Ça, eh bien, ça a tendance à augmenter. Ça touche vraiment des centaines de millions d'habitants à terme, cette élévation du niveau de la mer, des habitants qui devraient quitter l'endroit où ils vivent. Et on peut parler de Tokyo, de Bombay, bien sûr de New York, peut-être un moindre degré, de Miami, aussi de Lagos. Voilà, donc ce sont aussi des grandes villes qui doivent se poser des questions.
Si cette fonte des glaciers en Arctique se poursuit, c'est toute la géographie du monde qui pourrait en être modifiée, avec notamment la disparition de certaines villes englouties par les eaux.
Bien sûr, certaines villes sont très fragiles. Par exemple, disons à New York, il a été envisagé de mettre un mur, disons, sur une partie de New York fragile. Mais il y a aussi les régions de l'Arctique qui seront complètement modifiées, puisque des routes maritimes qui n'étaient pas ouvertes jusque-là seraient ouvertes pendant quelques mois de l'année, bien sûr l'été. Mais ça ouvre des perspectives en termes de transport maritime, mais aussi en termes d'exploration, que ce soit de gaz, de pétrole, mais aussi de minéraux, et dans un environnement qui est quand même extrêmement fragile et que l'on devrait tout faire pour protéger. Il faudrait laisser l'essentiel du pétrole et du gaz qu'on a dans nos sous-sols, là où il est, si on veut maîtriser le réchauffement climatique. Donc il faut vraiment arrêter ces explorations, en particulier celles du gaz et du pétrole.
Comment ralentir, voire inverser cette tendance? Comment protéger aujourd'hui les glaciers?
On peut ralentir, mais on ne peut pas inverser cette tendance. C'est très clair que le mieux qu'on puisse faire, c'est ralentir. Et ce qu'on doit faire est très clairement inscrit dans l'accord de Paris. Par exemple, si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, eh bien, il faut impérativement diminuer de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et puis, atteindre neutralité carbone en 2070. Pour 1,5 degré, il faudrait atteindre neutralité carbone en 2050, et on voit bien la difficulté dans un monde qui est intoxiqué, je dirais, presque par l'utilisation des combustibles fossiles. C'est un véritable problème. On sait ce qu'il faut faire. Il faut vraiment sortir de cette civilisation liée au pétrole, au gaz, au charbon, mais ce n'est pas si facile, mais c'est indispensable si on veut préserver un climat auquel les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter dans la deuxième partie de ce siècle. Bien sûr, dans les pays européens, mais encore plus dans d'autres pays comme l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, les régions qui sont déjà des zones assez chaudes et qui souffrent déjà de la chaleur.
Voilà, interrogé par Hélène Détombe, Jean Jouzel était ce matin notre invité. C'est la fin de cette édition. Le prochain retour de l'information, c'est tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite une très belle journée.